Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 10 avril 2021. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. Il n'y a pas besoin de négociations directes ou indirectes avec Washington avant la levée de toutes les sanctions et le retour des États-Unis au plan global d'action conjoint, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. L'unité de drones des forces armées yéménites a ciblé des positions militaires sensibles à l'aéroport d'Aba en Arabie Saoudite et au Soudan. 132 personnes ont été tuées lors d'affrontements dans l'état du Darfour occidental. C'était les principaux titres, en voici le journal. Il n'y a pas besoin de négociations directes ou indirectes avec Washington avant la levée de toutes les sanctions et le retour des États-Unis au plan global d'action conjoint, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La question primordiale pour l'Iran dans les négociations est la levée des sanctions et la garantie de cela sur la base de vérification de la part de Téhéran, a indiqué le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Behrouz Kamalvandi, ce vendredi 9 avril, lors d'une interview à l'occasion de la Journée nationale de la technologie. S'agissant des pourparlers de Vienne, le vice-ministre des Affaires internationales de l'Organisation de l'énergie atomique a déclaré « L'Iran fait part de ses positions lors de la réunion de la commission mixte sur l'accord nucléaire de 2015. L'important est de lever les sanctions et de procéder ensuite à une vérification pour s'assurer sur la levée en pratique des sanctions. Certes, nous devons obtenir des garanties sur la levée des sanctions. » Suite à l'enquête sur la violation du navire sud-coréen et à la demande du propriétaire et du gouvernement de ce pays pour la libération de ce navire, le procureur a donné l'ordre de sa libération, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a précisé à ce sujet que le fait que le capitaine et le navire n'aient pas eu de mauvais antécédents dans le domaine des violations dans la région a donné lieu à une opinion positive du procureur. L'Iran, en tant que pays ayant de longues côtes dans le golfe Persique et la mer d'Oman, met l'accent sur le plein respect des réglementations maritimes, dont les réglementations en matière de protection de l'environnement, et surveille et suit toute violation à cet égard, a ajouté M. Khatibzadeh. L'agence presse sud-coréenne Yonhap a publié vendredi 9 avril une photo du navire sud-coréen arrêté dans le golfe Persique, annonçant que le navire, son capitaine et son équipage avaient quitté l'Iran à 6 heures du matin, hors de Téhéran. Ce pétrolier avait été saisi par l'Iran en raison de la pollution de l'environnement dans le golfe Persique. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a annoncé que l'unité de drones de l'armée et des comités populaires à Sarala du Yémen avait ciblé des positions militaires sensibles à l'aéroport d'Aba en Arabie Saoudite. Yahya Sali a écrit sur son compte Twitter que l'opération était exacte, ajoutant que des drones de type RASEF K2 avaient été utilisés lors de l'attaque. Le général Saadia a souligné qu'il s'agissait d'une opération de représailles dans le cadre d'une réponse légitime au blocus et aux attaques continues de la coalition d'agression saoudienne contre le Yémen. Cela intervient alors que Yahya Saadia avait annoncé le vendredi matin que l'unité de drones de l'armée et des comités populaires yéménites avaient réussi à cibler les hangars des chasseurs de la coalition saoudienne à l'aéroport de Jizan. Dans le même temps, le journal saoudien Okaz fait état d'un incendie dans l'un des réservoirs de la centrale électrique de Jeddah en Arabie saoudite. L'incendie s'est produit par la suite d'une fuite dans l'un des réservoirs de la centrale. Les pompiers saoudiens ont été dépêchés sur les lieux dès qu'ils ont reçu la nouvelle. La compagnie saoudienne d'électricité confirmant la nouvelle a annoncé que les services de cette centrale électrique n'avaient pas été affectés. La compagnie saoudienne d'électricité a également déclaré que les travaux se poursuivaient toujours pour éteindre le feu. Un drone israélien a été abattu à l'est de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Gaza est la scène de nouveaux affrontements entre les groupes de la résistance et les militaires israéliens. Le dernier cas en est l'opération réussie de la résistance à Deir Bala, lors de laquelle un drone israélien a été abattu. Il y a quelques jours, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, FDLP, Kataeb al-Murawama al-Wataniya, s'est par ailleurs affrontée avec les forces israéliennes à l'est d'Deir al-Bala à Gaza. Kataeb al-Murawama al-Wataniya a déclaré dans un communiqué que ses combattants se sont affrontés avec des mitrailleuses, les soldats israéliens et leurs véhicules, qui étaient entrés à 60 mètres dans la partie est d'Deir al-Bala et qui les avaient refoulés à la frontière de Deir al-Bala. La branche militaire du FDLP a en outre déclaré qu'après le retrait des militaires israéliens, ces combattants avaient retourné sains et saufs à leur base. Des sources palestiniennes ont rapporté qu'après l'arrivée de la machinerie appartenant à l'armée israélienne à Deir al-Bala, les hommes armés du FDLP s'étaient heurtés aux militaires sionistes. Ce groupe de la résistance palestinienne a souligné que l'opération visait à faire front aux forces d'agression israéliennes et à défendre le peuple palestinien. Al-Murawama al-Wataniya a également souligné et qu'il ne permettrait pas aux forces d'occupation de continuer le déploiement de la machinerie militaire dans la région dans le sens de leur politique d'agression dans la bande de Gaza et pour cibler les agriculteurs et les pêcheurs de Deir al-Bala. Ce vendredi 9 mars coïncide le 73e souvenir du massacre de Deir Yassin, le grand crime commis par le régime sioniste contre les Palestiniens qui y a fait des centaines de martyrs. Le massacre de Deir Yassin est l'un des massacres les plus odieux perpétrés par l'occupant israélien et qui ne s'efface point de la mémoire des Palestiniens, non pas uniquement pour le nombre colossal de martyrs tombés, mais aussi à cause des effets de ce massacre dans les complots et les plans visant à déplacer les Palestiniens de leur territoire pour liquider leur cause et effacer leurs droits légaux. L'attaque terroriste contre le village de Deir Yassin, situé à l'ouest de la ville d'Al-Rots occupée, avait débuté à l'aube du 9 avril 1948, où les gangs terroristes sionistes ont utilisé de différentes armes sans discernement entre hommes, femmes et enfants, ce qui y a fait 360 martyrs palestiniens, en plus de l'incendie des dizaines de maisons. Le massacre de Deir Yassin était le début de plusieurs autres massacres commis par l'occupant israélien contre les Palestiniens, notamment celui de Tantoura, Kafr Hassem, Raza, Jenin, Khan Younes et Rana. En plus de la destruction de 425 villages palestiniens et le déplacement forcé du peuple palestinien. Après 73 ans du massacre de Deir Yassin, l'occupant israélien poursuit ses crimes et ses attaques contre les Palestiniens, leurs propriétés et leurs lieux saints pour les déplacer, s'emparer de leur territoire et les judaïser au milieu d'un mutisme international suspect et d'un soutien absolu apporté par les États-Unis au plan colonialiste de ce régime. Le ministre algérien du Travail a affirmé que la France est l'ennemi traditionnel et éternel de son pays. Une déclaration intervenue dans un contexte de rapprochement entre Paris et Alger, marqué par la rencontre entre les chefs d'état-major des armées des deux pays et la préparation du comité intergouvernemental franco-algérien. Le ministre algérien du Travail et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaboub, a lâché une pique contre la France en pleine séance du Sénat, signe que les relations franco-algériennes restent compliquées malgré une période de réchauffement. après le report et controversé de la visite de Jean Castex à Alger, les relations franco-algériennes viennent de subir une nouvelle secousse suite aux déclarations de l'Hachemi Djaboub, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le responsable algérien a en effet attaqué la France au détour d'un débat sur le déficit de la Caisse nationale des retraites, CNR, devant la Chambre haute du Parlement. Pour ce qui est du déficit de la CNR, je voudrais dire que toutes les caisses de retraite dans le monde souffrent. Je peux donner quelques chiffres qu'on peut vérifier sur Internet. Notre ennemi traditionnel et éternel, la France, a un déficit de 44,4 milliards d'euros dans sa caisse des retraites, a-t-il ainsi lâché devant les sénateurs. Et l'Hachemi Djaboub a poursuivi son raisonnement en se félicitant que l'Algérie ne se situe pas à son niveau de déficit. Les relations franco-algériennes semblaient pourtant s'être apaisées ces dernières semaines, dans le sillage des déclarations de divers hommes politiques. Le gouverneur d'État soudanais du Darfour occidental, Mohamed Abdallah Al-Doma, a annoncé jeudi que 132 personnes avaient été tuées lors de récents affrontements armés dans la capitale de l'État, El Geneina. Selon les rapports médicaux, jusqu'à présent, le nombre de personnes tuées est de 132, a indiqué M. Al-Doma lors d'une conférence de presse à Khartoum, la capitale du pays. Selon le gouverneur, la situation sécuritaire dans la ville est calme et les affrontements armés ont cessé, mais des actes de pillage sont signalés à la périphérie de la ville. Il a ajouté que les milices qui ont attaqué les civils venaient de l'extérieur de la ville et de certains pays voisins du Darfour. Ce sont des milices transfrontalières. Certaines sont venues du Tchad et d'autres de Libye. Mais elles se sont infiltrées à l'insu de ces pays, a-t-il noté. Les affrontements armés ont éclaté le 3 avril dans la ville d'El Geneina, entre les tribus d'Al-Masalit et Arab. Le 5 avril, le Conseil de sécurité de défense du Soudan a déclaré l'état d'urgence dans l'état du Darfour occidental et a autorisé les forces à adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux affrontements armés. La région soudanaise du Darfour est plongée dans une guerre civile depuis 2003. Le 31 décembre 2020, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution mettant fin au mandat de l'opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour, MINUAD, dans la région. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. États-Unis, l'ultimatum nucléaire de l'Iran. Rien ne garantira la conclusion d'un prochain accord avec Téhéran si les États-Unis ne peuvent parvenir à un accord avant que l'accord intérimaire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ne prenne fin dans moins de 2 mois, a averti un responsable iranien. L'agence presse japonaise Kyodo News, citant un responsable iranien, a rapporté: selon le plan proposé par Téhéran lors d'une réunion officielle le 29 mars à Francfort et accepté par toutes les parties lors de la réunion virtuelle de la commission mixte tenue le 2 avril, les États-Unis doivent lever toutes les sanctions imposées ou réactivées sous l'administration Trump. Avec la présence de la délégation diplomatique de la République islamique d'Iran, des pays P4+1, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et du secrétaire général adjoint du service européen pour l'action extérieure qui assiste en tant que coordinateur, le nouveau tour de pourparlers de la commission mixte a commencé le mardi 6 avril pour examiner les conditions préalables de l'Iran pour le retour des parties à leurs engagements dans le cadre du plan global d'action conjoint après la levée pratique de toutes les sanctions imposées illégalement par les États-Unis et la vérification des faits par la partie iranienne. La République islamique d'Iran, qui avait réduit ses obligations conformément aux articles 26 et 36 de l'accord sur le nucléaire, suite à la violation par les trois pays européens de leurs obligations et au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, insiste sur la nécessité de la levée pratique de toutes les sanctions pour revenir à ses engagements. Le responsable iranien, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a averti que si les États-Unis ne peuvent parvenir à un accord avant que l'accord intérimaire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IAEA, ne prenne fin dans moins de 2 mois, il n'y aura aucune garantie qu'ils puissent conclure un accord avec Téhéran après ce délai. Le responsable iranien a déclaré à l'agence de presse japonaise que si les États-Unis ne saisissent cette petite opportunité, les parties du question nucléaire devront attendre 7 mois pour que le futur gouvernement iranien s'apprête à s'engager dans les prochains pourparlers. Selon le responsable iranien, l'opposition de Washington à la levée des sanctions non nucléaires est le principal obstacle à l'avancement des pourparlers. Dans le même ordre d'idées, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui dirige la délégation iranienne à Vienne, a déclaré à Presse TV « Tant que les États-Unis n'ont pas levé toutes les sanctions et ne sont pas retournés à leurs engagements, les activités nucléaires iraniennes, surtout dans le domaine de l'enrichissement, ne seront pas arrêtées ni même réduites. » En rappelant « Notre enrichissement de 20% se poursuit maintenant avec un rythme plus accéléré que celui prévu dans la loi du Parlement iranien. » Il a conclu en martelant « Ce processus se poursuivra de la même manière jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé et selon lequel les États-Unis lèvent toutes les sanctions comme cela a été souligné à maintes reprises. Toutes les sanctions doivent être levées en une seule étape. »
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Nous riposterons sans aucun doute à l'attaque de notre navire Saviz en mer Rouge une fois que nous aurons identifié les auteurs, a martelé le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Aboulfazl Shekarchi. Le général Shekarchi, qui faisait allusion à cette attaque qui avait été menée il y a quelques jours contre un navire iranien en mer Rouge, dont la mission était de combattre la piraterie maritime. Et toujours, le porte-parole des forces armées iraniennes a précisé, l'Iran décidera de comment réagir. Une fois son enquête sur l'incident terminée, et l'Iran soupçonne Israël et les États-Unis d'être derrière cette attaque. Toujours selon ce haut responsable militaire iranien, les États-Unis sont sans aucun doute impliqués dans toutes les tentatives visées à porter atteinte à l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit d'un spécialiste français des questions internationales, Monsieur Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Dorostin. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Devollet de Damas, que je salue particulièrement.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Comme première question, Monsieur Dortiguier, pourquoi cette attaque contre ce navire iranien en mer Rouge, un navire dont la mission, je viens de le dire tout à l'heure, consistait à combattre la piraterie maritime, combattre le terrorisme?
Eh bien, je pense que que l'on soupçonne, bien sûr, à savoir les Israéliens, ont cherché deux choses. La première, c'est évidemment les capacités de l'Iran, c'est-à-dire à savoir les capacités des capacité politique, disons, la maîtrise également de l'Iran, mais surtout à vérifier, ils ont vérifié par là même les nouveaux liens, ou les liens encore plus étroits qu'il y a entre leur système, disons, leur gouvernement, et celui de M. Biden. Je pense que ça, il s'agit d'une opération, comme vous l'avez dit, qui était essentiellement américano-israélienne. Donc on peut dire que de ce point de vue, il y a une unité parfaite. On dit dans le Figaro, par exemple, qui relate l'incident grave, que le navire américain, l'Eisenhower, a été tenu à l'écart justement de cette opération, c'est-à-dire s'est tenu à une certaine distance pour ne pas être, disons, compromis. Je pense que là, il s'agit d'un ce qu'on appellerait un banc d'essai de la part des Israéliens. Et il y a aussi un troisième aspect, disons, qui regroupe ces deux, à savoir que les Israéliens cherchent toujours à faire intervenir leurs alliés dans leurs opérations. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être initiés quelque chose et bien sûr se couvrir par la suite en appelant des protections, parce que ce qu'ils veulent, c'est l'engagement en leur faveur et non pas un dévoilement de leurs forces. C'est-à-dire qu'ils veulent compromettre, disons, toute négociation avec l'Iran possible. Et je pense qu'il s'agit là d'un groupe en Israël qui est lié parfaitement avec la nouvelle administration. Je ne dis pas que l'ancienne administration n'était pas favorable, mais celle-ci l'est, disons, de façon plus déterminée. Il suffit de voir la qualité de celui qui s'occupe des affaires étrangères, enfin, aux États-Unis, etc., ainsi de suite. Je crois que nous sommes quand même nous ne sommes pas au dernier banc d'essai des Israéliens. Je crois qu'ils continueront encore à faire d'autres agressions, comme ils l'ont fait en mer Rouge. Je crois que là-dessus, tous les pays d'Orient sont tenus également à réagir. On parle malheureusement dans la presse, je terminerai là-dessus, dans la presse française, on essaie de montrer qu'il y a des tensions entre l'Iran et la Turquie, par exemple, des choses comme ça. Donc, on peut isoler votre pays, je crois, et tenter de l'isoler, même avec des mensonges ou des demi-vérités, et que cette provocation, puisqu'il n'y a pas d'autres termes, d'autres mots, et sert d'intimidation également à tous ceux qui voudraient, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit autre chose par exemple, débloquer les relations avec l'Iran, c'est-à-dire passer au-delà des interdictions financières et autres. Je vais nommer la République de Corée du Sud parce qu'elle a, vous savez, beaucoup d'importance dans les relations avec l'Iran. Et je crois qu'il s'agit d'une manœuvre d'intimidation également, donc aussi envers ceux qui voudraient rétablir des relations normales avec l'Iran. Cette intimidation, en fait, elle s'adresse à l'Europe. Je crois que là-dessus, les Israéliens, quand ils jouent, parce qu'ils jouent là-dedans, disons, calculent leurs effets. Et malheureusement, je ne crois pas que nous soyons à la fin de ces provocations. C'est un chemin. Et il faudra naturellement que les alliés de l'Iran ou ceux qui veulent, disons, se tenir à ses côtés, que ce soit la Russie ou même la Chine, d'autres, évidemment, tiennent bien compte, évidemment, de cet Israël qui d'ailleurs est aussi en relation avec eux.
Maître Develé, venez d'entendre les explications de M. Dortiguer. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, écoutez, je partage certaines des observations de M. Dortiguer dans le sens où, effectivement, il y a une volonté à Washington d'essayer de rattraper le temps perdu par le retrait unilatéral de l'administration Trump de l'accord sur le nucléaire. Et dans ce contexte, effectivement, et alors même qu'à Washington, une délégation particulièrement du Parti républicain au Congrès fait obstruction et annonce déjà que toute décision de l'administration Biden sera combattue bec et ongles au sein du Congrès, les Israéliens sur le terrain en coordination avec les éléments Hollywood, on va dire, au sein de l'administration Biden, qui joue quand même un double jeu, s'efforce effectivement de faire monter les tensions et de harceler l'Iran sur tous les fronts, de façon à pousser l'Iran à réagir de telle manière que tout ce qui peut être entrepris en termes de calmer les tensions serait rendu caduc. Donc on est dans, le pur cynisme israélien. J'ajouterai à cela que la situation dans l'État sioniste à la suite des élections qui ont eu lieu n'ont pas permis de dégager une majorité permettant la formation d'un cabinet, rendent la situation d'autant plus périlleuse parce que effectivement, avec une multiplicité des micro-partis, on peut penser que la stratégie de Netanyahou serait de créer une espèce de renversement de la table en provoquant un conflit qui lui permettrait ensuite de forcer l'opinion israélienne à se rallier derrière lui. Le cynisme de Netanyahou ne connaît aucune limite et il fera tout pour se maintenir au pouvoir.
Autrement dit, vous établissez, M. Devolet, si je vous ai bien suivi, un lien entre cette attaque contre ce navire iranien et également la politique intérieure israélienne.
Oui, tout à fait. On ne peut pas déconnecter les deux aspects de la situation. Ils sont intimement liés.
Autrement dit, vous voulez dire qu'il s'agit d'une tentative du Premier ministre israélien de vouloir toujours s'accrocher au pouvoir?
Oui, absolument, et ce faisant d'échapper aux poursuites sur les dossiers de corruption qui le harcèlent depuis maintenant plusieurs années.
Monsieur Dortiguet, il n'en est pas question pour l'Iran de laisser sans riposte cette attaque contre ce navire iranien en mer Rouge. Je viens de mentionner tout à l'heure en fait la déclaration du porte-parole des forces armées iraniennes, le général Aboulfazl Shekarchi. L'Iran, Monsieur Dortiguet, est en mesure de riposter. Pour mieux dire, Monsieur Dortiguet, vous êtes un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran. L'Iran a les moyens, si vous voulez, de sa politique défensive et militaire pour se défendre et pour, en fait, faire face à toute agression.
Oui, en effet, ce dernier point, ce point que vous soulevez, pardon, est très juste et il est confirmé par cette insistance, vous savez, diplomatique hein, contre l'Iran qui consiste à dire que ce n'est pas la question atomique qui est importante, mais que c'est son armement balistique, vous savez, à savoir cette volonté d'utiliser les inspecteurs, disons, du inspecteur atomique, pour pouvoir justement dénoncer tout armement possible de l'Iran, tout perfectionnement technique qui assurerait évidemment une riposte à toute agression dirigée contre lui. C'est là qu'on saisit le mieux, disons, ce qui a été dit depuis déjà des années, en disant que si les négociations du traité de Vienne ne sont pas suffisantes, les accords de Vienne ne sont pas suffisantes, qu'il faut, disons, les accompagner d'inspection les plus tatillonnes possibles, etc., touchant, je veux dire, l'armement ordinaire de l'Iran, armement, je veux dire, non atomique. Il n'y a pas d'armement atomique, mais disons, l'armement classique. Et c'est justement cette intimidation, cette guerre, disons, psychologique, politique, en même temps, contre l'Iran, qui permet, qui donne justement cette audace à l'administration israélienne, au gouvernement de Netanyahou, en effet, de donner des, comment on dit, des coups d'épingle à l'Iran en regardant ses propres alliés et en disant, voyez, vous ne risquez rien, nous-mêmes qui sommes une nation ainsi de toute petite, etc., nous pouvons nous défendre, et donc vous-même essayez de continuer justement cette intimidation contre l'Iran. Parce que ce qui est dans toutes ces affaires-là, il ne faut pas chercher, à notre sens, simplement des questions de riposte, s'interroger sur la qualité des ripostes stratégiques, mais aussi la politique. Car la question est toujours politique. C'est-à-dire, est-ce que l'Iran pourra être détaché du soutien qu'il apporte, moral, matériel, par exemple à la Syrie, au Liban, au front de la résistance, voyez, tout ceci est tout ceci est finalement ce qui est essentiel pour Israël, pour le représentant, comme a dit votre correspondant, donc, le parti, les représentants du Likoud, si je puis dire, aux États-Unis, etc., je dois dire que l'Iran a les moyens, et on sait qu'il a les moyens, on sait qu'il a la capacité politique de le faire, et je crois simplement que Israël, qui craint l'Iran de ce point de vue, a besoin de l'enveloppement et du secours de ses alliés. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut faire attention et qu'il faut justement, disons, essayer de séparer, de montrer à ces alliés-là que s'ils suivent l'État d'Israël comme ils l'ont fait dans le passé, eh bien, c'est toute leur économie qui risquerait aussi plus ou moins, disons, d'en pâtir, car ça serait l'introduction d'un désordre permanent en Orient.
Maître de Velay, en fait, les États-Unis ont une nouvelle fois, saisissant de cette affaire également, ont cherché, si vous voulez, à jouer un double jeu. Les États-Unis disent ne pas être impliqués dans cette attaque contre le navire iranien, mais il y a eu cette information comme quoi, en fait, Israël avait informé les États-Unis de cette attaque contre ce navire iranien, une attaque qui a eu lieu en même temps où il y a eu quand même ces négociations entre l'Iran et le groupe 4 plus 1 à Vienne sur le nucléaire iranien, également sur un éventuel retour des États-Unis, si vous voulez, à cet accord, également la question de si vous voulez, de voir en fait les États-Unis de remplir pleinement leurs engagements pris dans le cadre de cet accord nucléaire de 2015. Là aussi, il s'agit d'un double jeu, semble-t-il, maître de volée de la part, si vous voulez, des autorités américaines, n'est-ce pas?
Ça peut être une interprétation, celle d'un double jeu, mais ça peut être aussi une expression d'une administration Biden dont on soupçonne, on devine qu'elle en fait, elle est complètement éparpillée, qu'il y a en fait plusieurs groupes d'intérêts qui s'affrontent et qu'il est tentant effectivement de l'extérieur qu'au minimum, ils jouent un double jeu. Ou alors, on est dans une cacophonie totale. Et j'ai bien peur, malheureusement, qu'il soit plutôt question d'incompétence et d'absence d'uniformité dans la conduite des affaires étrangères, qui plus est au Moyen-Orient. Et c'est ça qui rend, selon moi, la situation extrêmement dangereuse, plus que la perception qui pourrait être faite, effectivement, d'un double jeu. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même un désir au sein du Pentagone de réorienter la stratégie globale des États-Unis selon leur document officiel de 2020-2021 pour se refocaliser sur ce qu'ils appellent des adversaires stratégiques à l'échelle globale tels que la Russie ou la Chine. Donc on assisterait plutôt en fait à une espèce de décrue en termes de présence américaine dans la région pour un repositionnement plutôt en Europe de l'Est ou dans le Pacifique. Mais maintenant, effectivement, avec le lobby israélien, qui quand même possède une force d'influence à Washington, et en cela, je rejoins tout à fait l'analyse du docteur Bortiguier, c'est que tout sera fait pour essayer, par la tignasse de leurs cheveux, forcer les Américains à rester dans la région, et je dirais, en plus de cela, essayer d'impliquer d'autres nations, telles que la France, dont... On a pu voir les dernières semaines qu'elle avait, à la suite de la visite du chef d'état-major des forces armées israéliennes à Paris, Paris avait décidé de mener effectivement une opération, une coalition navale dans le Golfe, qui a de toute évidence des visées de provocation. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux qui laisse entendre que les Israéliens n'hésiteront et n'arrêteront pas de faire en sorte que d'autres pays en fait soient impliqués dans leurs intérêts, dans leur agenda régional, et de façon à pouvoir ensuite invoquer effectivement une menace qui n'en est pas une, mais que les Israéliens ont tout intérêt à essayer de monter en épingle pour pouvoir sortir en épingle du jeu.
Monsieur Dorsiguet, est-ce que vous aussi vous estimez tout comme Maître de Velay, que là, il s'agit en fait d'un levier de pression exercé contre les États-Unis qui envisageraient de changer de cap et de, et si vous voulez, de changer d'orientation politique et géopolitique pour en fait se retirer du Moyen-Orient et se concentrer sur, si vous voulez, d'autres régions du monde en ayant un œil sur la Russie et la Chine. Pensez-vous qu'il s'agit en fait, tout comme ce de voler d'un levier de pression exercé par le régime israélien et également certains autres pays sur les États-Unis pour en fait les forcer à ne pas, si vous voulez, suivre une telle approche?
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Maître Develay. Les États-Unis, depuis l'arrivée de M. Trump, ont manifesté, disons, des intérêts qui sont tout à fait compréhensibles, de retrait, disons, du Proche-Orient, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit leurs alliés traditionnels qui puissent se défendre eux-mêmes, qui sont suffisamment forts, bien sûr, nourris en armes, etc., pour pouvoir le faire indépendamment des États-Unis. C'est une question, cela est allé jusqu'en Afghanistan. M. Trump l'avait annoncé, et je crois que la politique de M. Biden a repris aussi, c'est tout à fait dans l'intérêt des Américains, enfin, c'est une affaire de grande puissance, de rapport de puissance, qu'il y avait en effet une concurrence avec la Chine, concurrence d'ailleurs qui est une concurrence sérieuse, c'est pas simplement une sorte de relation de confiance de nation. Vous avez des investissements chinois très importants, en France en particulier, investissements financiers et autres. Et bien sûr, cela entraîne des remous, disons, de la part des États-Unis, au sein des États-Unis. Alors, il y a donc des intérêts très marqués, qui sont des intérêts géopolitiques, et bien sûr, ceci est au détriment de cette clique, disons, enfin, cette clique, ce n'est pas péjoratif, c'est une manière de désigner, disons, une minorité qui est la minorité israélienne, qui est très importante aux États-Unis, et qui ne veut pas être abandonnée, car, bien sûr, on revient toujours à la fragilité. Quand même. C'est pas parce qu'Israël reçoit des armements, reçoit énormément de soutien financier de la part des États-Unis, avec des gens qui le nourrissent parce que quand ils ont de l'argent, ils ont des facilités du point de vue fiscal, des facilités fiscales, etc., que l'État d'Israël est fort. Non, l'État d'Israël est bâti sur un déséquilibre et a besoin justement d'une situation, disons, de guerre, de tension, hein, pour se maintenir. Et maintenir aussi son emprise à l'intérieur des États-Unis. Emprise, je veux dire, financière, emprise politique. Et donc, l'État d'Israël est à la fois offensif et défensif. Il est obligé de se défendre, disons, car il sait qu'il est lui-même une minorité à l'intérieur même des États-Unis. Et bien sûr, il a des appuis, mais des appuis qui sont des appuis en Occident, avec l'Allemagne, par exemple. Ça, si vous connaissez les circonstances à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et il se nourrit en armement avec les sous-marins de classe Dauphin, etc. Mais en France, il profite évidemment aussi de la faiblesse, je dirais, économique et financière de la France pour pouvoir justement faire en sorte que le Charles de Gaulle, par exemple, notre fleuron national, puisse aussi se balader, disons, parcourir les eaux locales pour pouvoir, disons, impressionner ce qu'on appelle les ennemis d'Israël. En réalité, les ennemis d'Israël, ce sont des gens qui baptise ainsi ceux qui sont, disons, ceux qui reconnaissent le caractère offensif permanent de cet État, et que l'on voit sur le champ de bataille, que l'on voit en Syrie, que l'on voit au Liban, etc. Et donc, tant qu'il n'y aura pas, disons, de résolution profonde, des résolutions, disons, actives, pour pouvoir mettre fin à la question palestinienne, disons, établir la justice dans cette région. À ce moment-là, évidemment, Israël sera toujours à la recherche, disons, de tensions pour se maintenir, c'est-à-dire avoir une vie artificielle et non pas une vie naturelle comme il y en a entre les États.
Merci beaucoup, Maître Develay. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Nous avons 2 minutes devant nous. Vous l'avez dit, M. Dordillier également, il a fait des allusions. Il s'agit d'un acte de provocation, mais là aussi, l'Iran a fait preuve de vigilance et de patience en disant que voilà, nous attendons qu'une enquête soit terminée. Ensuite, nous allons punir, si vous voulez, les auteurs de cette attaque. Là aussi, on assiste à une intelligence stratégique côté iranien, n'est-ce pas, M. Develay?
Oui, tout à fait. L'Iran, dans en ce sens, est très consistant dans son approche de ne jamais se précipiter à tirer des conclusions et surtout tomber dans des pièges qui ensuite serviraient des intérêts israéliens. En l'occurrence, il s'agit de choisir le moment précis pour pouvoir identifier de manière précise les perpétrateurs et, ce faisant, après, réagir de manière appropriée dans un contexte que l'Iran choisira et non pas dans un contexte que les ennemis de l'Iran lui auront dicté.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Maître Arnaud Devollet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. La diplomatie iranienne qualifie la Chine de grande puissance mondiale, jouissant d'une économie de premier ordre qui mène une coopération économique avec divers pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a évoqué mercredi l'accord de coopération sino-iranien de 25 ans avant de qualifier la Chine de grande puissance mondiale jouissant d'une économie de premier ordre qui mène une coopération économique avec divers pays. La Chine est une grande puissance mondiale et une économie de premier ordre qui a signé et signe de grands contrats économiques et des protocoles d'accords de coopération avec divers pays, des pays d'Amérique et d'Europe, aux pays arabes et du Golfe Persique, aux États d'Asie centrale et au Moyen-Orient et aux pays d'Extrême-Orient, a déclaré Khatibzadeh dans un message vidéo publié sur sa page Instagram. L'établissement des liens stratégiques avec la Chine était également d'une grande importance particulière pour l'Iran, tout comme la promotion des relations avec l'Iran au niveau de la coopération stratégique est une priorité pour la Chine qui a été concrétisée lors de la visite du président chinois en Iran, a-t-il expliqué. Et de poursuivre, naturellement, l'Iran, en tant qu'acteur de la politique internationale, ne peut pas céder aux pressions lors de la conception de ses plans de développement en raison des sanctions arbitraires américaines afin de profiter de toute opportunité pour poursuivre sa politique. Dans une autre partie de ce propos, il s'est exprimé en ces termes. Les mesures prises par l'Iran étaient désagréables pour ceux qui voulaient qu'ils se rendent ou soient isolés, ce qui était la raison de leur déformation hâtive et des faits de leur campagne de désinformation contre cet accord, comme nous l'avons remarqué à propos de cette feuille de route. L'accord a-t-il indiqué de coopération globale sino-iranienne et la feuille de route tracée à cette coopération porteront leurs fruits pour la nation iranienne quand il entrera dans ses phases de mise en œuvre et les contrats économiques seront signés entre en fait les deux pays. Le ministre tadjik de la Défense a rencontré jeudi matin le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareilly, à Téhéran. Le ministre tadjik de la Défense, le général Sherali Mirzoh, s'est entretenu jeudi à Téhéran avec le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Le développement des relations militaires et défensives dans divers domaines de la recherche, de la formation et de la sécurité était au menu des discussions des deux parties iraniennes et tadjiques.
Il a été décidé de créer un groupe de travail conjoint entre les forces armées des deux pays. Et ce groupe de travail sera chargé de tracer l'avenir des relations militaires et défensives entre les deux pays, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes devant les journalistes. En Irak, les factions de résistance ont aussi le ton de menaçant de porter des frappes importantes au cas où le dialogue stratégique entre l'Irak et les États-Unis ne comprenait pas une annonce claire sur la date du retrait définitif des forces d'occupation américaines d'Irak. Dans un communiqué, l'organe de coordination de ces factions a réclamé que de soit rétabli de nouveau le comité de dialogue avec les États-Unis, de sorte que la mission consiste à dresser une carte pour mettre en œuvre la décision du peuple et de la Chambre des représentants, c'est-à-dire du Parlement irakien, de retirer les forces américaines de l'Irak. Le retrait des forces américaines est devenu une demande populaire et parlementaire après l'assassinat du général martyr Soleimani et d'Abu Mahdi, moine du général martyr Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, et Abu Mahdi Mohandes, le chef adjoint des Hashd al-Shabi, des unités de la mobilisation populaire d'Irak. Devrait figurer en tête de la feuille de route et la première de ces actions, la mise en œuvre de la décision du peuple et du Parlement irakien d'expulser les forces américaines du sol irakien et ce que soit inclus l'espace en fait aérien irakien et son entière protection de sorte que soit interdite sa violation de la part de toute aviation étrangère, a précisé l'organe de coordination de cette faction dans son communiqué. Une agression israélienne contre la Syrie a été repoussée. Une agression aérienne israélienne a eu lieu dans l'année de mercredi à jeudi, 8 avril, dans la périphérie de Damas. Cette attaque a causé des dégâts matériels et 4 soldats ont été blessés, a précisé l'agence d'information syrienne Sana. Selon Sana, l'ennemi israélien a mené une agression venant de la direction du Liban contre les positions à proximité de Damas. Nos défenses aériennes ont intercepté l'agression et abattu la plupart des missiles, a affirmé Sana. Pour sa part, le correspondant Al-Manar a rapporté que l'un des missiles de la DCA des Syriennes a poursuivi un avion de combat israélien dans l'espace aérien de la région frontalière. Le son du missile a été entendu dans tout le dessus du Liban. Covid-19. Amnesty International dénonce la mainmise des pays riches sur les vaccins. Amnesty International appelle au sursaut face au quasi-monopole des pays riches. La pandémie a jeté une lumière crue sur l'incapacité du monde à coopérer de manière efficace et équitable, regrette Amnesty International. Face à la main basse des pays riches sur les vaccins contre le coronavirus, Amnesty International a appelé en fait la communauté internationale à corriger le tir immédiatement, s'inquiétant des conséquences de l'échec de la capacité du monde à coopérer. Dans son rapport, Amnesty, en fait, dresse un bilan sévère d'une année chamboulée par la pandémie de COVID-19. Chacun pour soi des généralisés pénalisant les plus fragiles, aggravant les inégalités, mais aussi accentuation de la répression dans certains pays sous des motifs sanitaires. La pandémie a jeté une lumière crue sur l'incapacité du monde à coopérer de manière efficace concurrence équitable, a souligné en préambule la Française Agnès Callamard, nommée fin mars secrétaire générale de cette organisation. Les pays les plus riches ont établi un quasi-monopole sur les approvisionnements en vaccins dans le monde, laissant les pays avec le moins de ressources confrontés aux pires conséquences en matière de santé et de droits humains, et donc aux perturbations économiques et sociales les plus longues, a-t-elle ajouté. Amnesty appelle donc à œuvrer immédiatement pour en fait résoudre ce problème. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.